Amis de la Reconquête, bonsoir. Messieurs, dames, bonsoir.
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 Alors, c'est le...
Bonsoir.
La Reconquête prend un temps.
Ça y est.
Ce soir, c'est le clan de la presse, vous l'avez deviné. Ensuite, nous recevrons d'autres invités. J'attends Daniel Raffard de Brienne, j'espère qu'il a pensé, parce que je n'ai pas de nouvelles que nous avions rendez-vous. Et Dominique Tassot, avec qui nous parlerons du CEP, du CEP, puis vous entendrez également Cécilia pour parler de fleurs. Je sais que dans cette période difficile, comme toutes les périodes, périlleuse comme toutes les périodes, ombrageuse, orageuse, ténébreuse, comme toutes les périodes, il faudrait pas perdre de temps à parler de fleurs. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Moi, j'aime les fleurs, puis j'aime bien Cécilia. Et donc, on va quand même en parler, parce que je suis chez moi, ici. Je fais qu'est-ce que je veux dans cette émission, et toc. Alors, avant, je vais répondre... Alors, donc, autour de cette table, Jean Madiran... Je le dis dans le désordre, pardon, Camille Gallic, excusez-moi pour une fois, je ne vous cite pas en premier... Donc Jean Madiran, Camille Gallic, Emmanuel Ratier, Jean-Claude Varane, Henri de Fersan et Claude Giraud, moralement est parmi nous, mais vous connaissez la pudeur de Claude qui, ayant une émission sur Radio Courtoisie, répugne à s'imposer dans une autre et par conséquent...
L'attentat à la pudeur en notre compagnie.
Voilà, et qu'est-ce que vous dites comme ça? Oui, avant, je voudrais répondre à un courrier. Alors, un auditeur me dit, dans votre précédente émission, vous avez révélé une inflation de 2,5% pour le seul mois de janvier 2002, suite à la mise en place de l'euro. Auriez-vous l'amabilité pour l'ensemble des auditeurs de confirmer ce chiffre qui semble soigneusement caché par la nomenclatura, de nous faire connaître votre source d'information? Alors, l'un et l'autre vont ensemble, puisque la source d'information, c'est CNN, qui a interviewé un spécialiste de l'économie, lequel a dit, CNN c'est la radio de désinformation américaine bien connue, lequel a dit que dans l'Euroland, depuis la mise en place de l'euro, on constatait une inflation de 2,5%. L'Euroland étant l'ensemble des pays qui ont accepté d'adopter la monnaie unique.
La zone euro alors?
Mais lui, il a dit l'Euroland. Moi, je répète ce qu'il a dit. Mais pour moi, l'Euroland ou la zone euro, c'est la même chose. Ça n'existe pas. Mais n'empêche que, voilà, c'est comme ça. Et je voudrais dire que si vous n'avez pas répondu à l'annonce du journal de Miguet, il faut que vous sachiez qu'il est bien déçu. Alors, c'est ce qu'il écrit, Miguet, vous savez, l'homme du journal en question, qui se présente aux élections. Hein. « Toutes les forces de la France », c'est son slogan. Ça vous fait pas rire, vous, monsieur Ratier? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'air...
Il peut pas rire, il a pas de micro.
Non, mais ça, je crois que c'est... Il est discret parce que c'est de la solidarité de Normand, ça.
Hein? Non, mais j'ai pas de micro, donc je vais pas parler.
Ah bon, d'accord. C'est pas de ma faute si vous n'avez pas de micro, c'est parce que les auditeurs ne cotisent pas assez. On peut pas acheter de micro. On est vraiment... on est pauvres. Donc apportez votre micro, qu'est-ce que je vous dis?
Il n'y en a qu'à nous en offrir.
Voilà. Aidez-nous à nous aider. Alors il dit, j'ai été bien déçu de ne pas, sauf erreur, avoir eu de réponse positive à mon appel, ce que je vous ai écrit au début du mois de décembre. Je vous demande de m'aider à vous aider. Allez-vous déserter? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déserter? Et vous savez pourquoi il faut l'aider, Miguet? Parce qu'en 1943, requis pour aller travailler au service de l'Allemagne, son père a choisi de rejoindre la France libre. C'est pas une bonne raison, ça, quand même, pour lui envoyer du fric? Ah, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je trouve ça plutôt... S'il fallait envoyer du fric à tous les gens qui ont été requis par le STO, ça finirait par nous coûter cher, encore qu'ils sont de moins en moins nombreux. Mais enfin, il en reste quand même pas mal. Hein.
Mais attendez, il n'a pas été requis. C'est un neveu de requis. Donc, apparemment, si j'ai bien compris.
Ah oui, mais
c'est pas lui qui a été requis.
Je ne sais pas pourquoi on enverrait du fric à son père. Il ne se présente pas aux élections. De même, mon oncle Albert... Hein, voilà.
C'est pas vrai.
Si, si. Non, mais je vous garantis. C'est s'il parle de papa. Papa s'est engagé dans la France. Ce qui est marrant, c'est qu'il ne parle pas des décorations. C'était quand même vachement difficile à l'époque de s'engager dans les forces françaises libres, de passer au travers d'une décoration. Hein. Parce que, enfin, il a juste un oubli. Je pense qu'il va y avoir une lettre qui va suivre où il va nous expliquer tout ça.
Non, mais on ne décorait pas le neveu pour les hauts faits d'armes de ses oncles.
Il ne demande pas à être décoré, il demande qu'on lui donne du fric.
Oui.
Il dit, mon père s'est engagé.
Et on ne donnait pas du fric non plus pour cette... Pour cette même raison.
Eh bien, écoutez, il a le droit de toujours demander. Hein, il y en a d'autres qui demandent du fric pour être candidat au
présidentiel. Vous n'avez qu'à, je vous laisse à vos bonnes dispositions. Vous n'avez qu'à cotiser.
Mais non, moi, je suis candidat.
À quoi, à
la présidentielle. Enfin, je suis candidat à recevoir du fric.
Vous êtes candidat disponible ou bien vous êtes candidat à la candidature?
Candidat à la candidature. Je l'ai dit, le jour où Reichmann a fait son annonce en disant qu'il serait candidat, le lendemain, j'ai été candidat aussi, parce que je trouve que c'est quand même un bon moyen de faire du fric. Je ne sais pas si ça marche, mais pour moi, jusqu'à présent, ça n'a pas été une réussite, je dois dire. Pas beaucoup plus de succès comme candidat que comme marchand de journal.
Si vous avez 500 signatures, vous avez droit à 6 millions, si je compte bien.
4 millions. Mais...
Encore 6 millions
4...
De francs,
d'anciens francs. Enfin, de nouveaux francs.
Dans l'énumération que ne fait Miguet, il ne parle pas de ses condamnations, non?
Ah, je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Je sais. Non, j'ai lu sa lettre avec attention, je n'ai pas vu ça. Mais... Oui, c'est vrai, tiens. Il y a une... Oui, donc il faut qu'il fasse une autre lettre. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus pour expliquer pourquoi tonton Albert et papa se sont engagés. On doit lui envoyer de l'argent à cause de ça. Et ensuite, ce que vous venez de dire, mon cher Jean-Claude Varane.
Surtout qu'il n'a pas besoin de se réfugier derrière les titres de gloire de sa famille, puisqu'il a quand même, lui, un illustre titre de gloire en tant qu'inventeur du quotidien mensuel. On ne le répétera jamais assez.
Et faute d'être fils d'archevêque, il est frère d'évêque. Ne pas oublier quand même ça. Voilà, bon, je trouve qu'on a assez parlé de tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pour l'instant, rien. Sinon que, oui, si, un mot encore. Le commandant Bunel a reçu beaucoup de courriers des auditeurs de Radio Courtoisie et des lecteurs du Libre Journal. Vous savez qu'il est actuellement détenu à la suite de son procès. Et il m'a envoyé une lettre... pour me dire deux choses. D'abord, il ne peut pas répondre à tout le monde parce que le système de la détention fait qu'il faut cantiner pour avoir des timbres, que le cantinage revient extrêmement cher, parce qu'il faut bien reconnaître quand même que le cantinage, c'est une forme de racket, que quand on veut acheter une enveloppe, on paye à peu près l'enveloppe au prix du paquet d'enveloppes dans une librairie de luxe. Et donc il n'a pas les moyens de répondre à tout le monde. Et d'autre part, beaucoup d'auditeurs lui ont écrit sans indiquer leur adresse. Donc il m'a envoyé une lettre en me demandant de remercier les auditeurs et de leur dire n'envoyez que des lettres. C'est inutile de lui envoyer des livres ou des journaux, car toujours pour la même raison de cantinage, il ne peut rien recevoir. Tout ce qu'il veut, il faut qu'il achète à l'intérieur de la prison. C'est comme ça que ça fonctionne.
Même les livres qu'on envoie?
Même les livres, absolument.
Il dit, c'est pas la peine de... Les livres sont gardés, alors?
Il les garde pour les donner à la sortie. Donc il faudra probablement aller le chercher à la sortie avec un 15 tonnes, je pense. Et puis, un auditeur m'envoie une photocopie de la une du dernier Libre Journal où il y avait un très très beau dessin de Mucha intitulé « Le Dimité ». Et cet auditeur me dit, je viens de recevoir le numéro 258, je ne comprends pas très bien l'image de la présentation, merci de vouloir l'expliquer. Alors j'explique, c'est donc un dessin de Mucha, qui est un très grand dessinateur de la fin du siècle dernier et du début du siècle, Alphonse Mucha, vous voyez qui c'est, d'origine tchèque absolument.
Mucha,
voilà. Et... qui a fait une œuvre magnifique qui s'appelle « Notre Père », où il a fait des illustrations pour chacune des phrases du « Notre Père ». Et notamment une illustration qui représente le fameux « Dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitibus debitoribus nostris », ce qui se dit en français « Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi dans la version moderne à ceux qui nous ont offensés ». Donc c'était ce dessin, ça me paraissait un bon dessin de carême. Apparemment, c'est raté. Il ne faut pas que ça vous empêche de vous abonner au Libre Journal, qui est un excellent journal. Ma petite femme attend vos appels téléphoniques dans l'instant pour se dire que vous vous abonnez tout de suite. C'est 4 Place France, pas le téléphone, mais l'adresse. 4 Place France. L'abonnement, c'est 110 euros. Le réabonnement, 100 euros. Et si vous voulez payer en deux fois, c'est 55 euros. Voilà. Comme ça, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Maintenant, vous allez pouvoir faire la même chose, mesdames et messieurs. Et nous dire ce que vous pensez de l'actualité. J'avais envie de vous interroger d'abord, à moins que vous ayez des préventions contre ça, sur l'histoire des journaux gratuits.
Ah, il y a beaucoup à dire là-dessus.
Jean Madiran.
Il y a beaucoup à dire, parce que ça a provoqué le lynchage de... D'abord, ce sont des quotidiens. Hein. Les quotidiens gratuits et les quotidiens installés ont fait front contre eux, les quotidiens installés qui, eux-mêmes, sont des quotidiens semi-gratuits ou même des quotidiens aux quatre, gratuits aux 4 cinquièmes. Gratuit aux 4 cinquièmes et qui ont cette énorme hypocrisie, mais qui éclate un peu dans l'affaire qui a amené Serge Julie à raconter, je ne sais plus quelle antenne, que s'il devait vendre Libération au prix de revient, il le vendrait plus de 20 francs. Ce qui me paraît encore sous-estimé.
Bon, c'est évident.
Ils vivent, mais en fait, c'est qui fait quand même déjà une grosse différence. Ouais. Ce qui fait que il y a eu quelques années, Le Figaro reconnaissait, mais dans les journaux professionnels, reconnaissait que plus de 80% de ses recettes venaient de la publicité. Je ne sais pas si la proportion a augmenté ou diminué depuis lors, mais c'est probablement du même ordre. D'autre part, j'ai remarqué que le directeur de La Croix, pour lequel je n'ai pas d'idées particulières, au contraire, que je lis avec profit souvent, et dans ce cas-là très précisément, a dit penser donc que pour lancer des journaux gratuits, il faut d'énormes moyens.
Oui, tandis que pour lancer des journaux payants.
D'énormes moyens. Alors, quand ce sont. Quand on sait que son journal est.
Subventionné.
Parfaitement, continuellement déficitaire, et qu'il survit grâce notamment financièrement puissant d'édition qui est le groupe de Bayer Press, l'ex-Bonne Presse, n'est-ce pas, et qu'il peut se considérer peut-être comme modeste par rapport au groupe auquel président des Serge Julie ou des Chaise Martin. À propos de Chaise Martin, est-ce que je peux dire un mot qui me frappe beaucoup? Vous avez l'air d'étonné, Camille, et qu'on trouvera d'ailleurs développé dans présent de ce soir qu'on aura demain matin. Figurez-vous que le directeur politique du Figaro est M. Chaise Martin, Yves de Chaise Martin. Alors, M. Yves de Chaise Martin, il est directeur politique, mais à quel titre? Il n'est pas un journaliste politique. Il n'est pas un journaliste politique, finalement. Il n'est pas un homme politique, ça se saurait. Il n'est pas un écrivain politique, ça se saurait encore plus. J'ai donc recherché quel pouvait être...
Il est un directeur politique, en tout cas.
D'un journal.
C'est directeur ou commissaire?
Hein?
C'est directeur ou commissaire?
Il est directeur politique.
Dans la police, le grade de directeur, c'est au-dessus de commissaire.
Mais entre autres titres, il est naturellement PDG, etc., etc. Mais j'ai donc recherché quel pouvait être son métier. Puisque, en principe, Le Figaro est un journal politique, a-t-il voulu écrire un homme qui n'est ni homme politique, ni journaliste politique, ni écrivain politique? Et donc, j'ai vu qu'il était connu et qu'il se reconnaissait comme tel, puisque c'est dans le Bouzou qu'il est président de société. C'est-à-dire qu'il est, je vois pas d'autre expression, ce qu'il est en politique, n'étant ni homme, ni journaliste, ni écrivain, il est un commerçant de la politique.
Ben oui.
Voilà. Enfin, l'histoire des journaux gratuits amène amène devant le public un certain nombre de choses sur plusieurs plans. Amène aussi à voir que les milices et commandos communistes du Parti communiste, du syndicat du livre, de la CGT fonctionnent toujours et au premier appel. Et puis à s'interroger aussi sur ces journaux qui actuellement sont montés, mais nous avons 250 journalistes, dit Serge Julie, tandis qu'ils n'en ont que 10. Les Guignols d'ailleurs s'en sont moqués pour une fois avec esprit, c'était juste. Et quant à nous, nous en avons 350, dit Le Monde du même. Mais qu'est-ce que c'est que cette surabondance pharaonesque, n'est-ce pas, qui sert simplement à augmenter le coût de revient des quotidiens, si l'on veut les concurrencer au même niveau, hein, et ce qui fait qu'ils disposent d'un monopole financier, qu'ils se partagent. Voilà, et qui empêche, voulez-vous fonder un quotidien, eh bien vous ne pouvez pas fonder un quotidien à 3 ou 4 troubadours, voilà, avec 2 ou 3 livrets A de la Caisse d'épargne.
Je trouve qu'on devrait mettre le prix de vente du journal en disant ce journal vaut 50 francs, dont 45 francs ont été payés par la centrale d'achat d'espace, qui en est par conséquent le propriétaire.
Oui, oui, oui. Vous et le patron.
et le patron.
Et le patron.
L'acheteur, le lecteur, n'en étant en quelque sorte que l'usufruitier passager pour la somme de 5 francs, ce qui lui donne qu'un droit, c'est de fermer sa gueule. Marie-Camille, vous voulez dire quelque chose ?
Oui, sur les gratuits, mais d'abord, je voudrais rebondir sur le Figaro dont notre ami Madiran vient de parler. Je viens de lire dans Le Monde que la participation que le groupe Carlyle avait renoncé à sa participation dans le Figaro grâce, si j'ai bien compris, à une aide substantielle du groupe Dassault qui remplacera Carlyle. Et je me demande si Rivarol n'est pas un petit peu responsable, je le dis très modestement, de ce désir du Figaro de ne plus avoir Carlyle parmi ses investisseurs, parce que nous avions fait plusieurs articles l'hiver dernier en insistant lourdement sur le fait que Carlyle, dont Bush père était l'un des consultants, au sein de Carlyle, Bush père était l'un des employés de Ben Laden.
Oui, c'est exact.
Et il se trouvait que le Figaro, justement, avait publié l'interview absolument d'un bellicisme extraordinaire contre l'Irak d'un dirigeant de la CIA qui était, justement lui-même, très lié au groupe Carlyle. Oui. Mais sur les gratuits, moi, ce qui me frappe encore plus, c'est que Jean a parlé de commando de la CGT. Comme il se trouve, l'adresse qui avait été soigneusement cachée de l'imprimerie du groupe Métro à Château-Renard avait été donnée la veille par l'AFP.
Et les communistes, comme on le sait,
voilà.
La
CGT Livre n'avait qu'à avoir l'AFP pour savoir où se diriger. Mais ce que je trouve encore plus énorme que le quotidien Métro, c'est que la Provence lance elle-même un gratuit. Marseille Plus, nous avons un article d'ailleurs de notre correspondant à Marseille, Luc Deloncle, je n'y peux rien, dans le numéro à paraître ce vendredi. C'est absolument énorme qu'un quotidien lance un gratuit, qu'un quotidien payant lance un gratuit pour se concurrencer.
Ouais. Mais ça,
qui est fait par des journalistes de la Provence.
Ce qui est encore plus extraordinaire, c'est de penser que les lecteurs ne sont pas attentifs à ce genre de détails. Parce que c'est quand même... Enfin, s'il y a une preuve qu'on leur raconte n'importe quoi, qu'on leur ment, qu'on les trompe, c'est ça, voilà une preuve. C'est que le prétendu combat de la presse payante contre la presse libre, combat héroïque des gens qui résistent au fric, au capital et tout, c'est du pipeau, c'est pas vrai, puisque la presse libre, la Provence, en plus qui est pas un journal de droite, lance elle-même un quotidien gratuit. C'est exactement l'histoire des lessiviers qui lancent 12 marques de lessive qui sont sorties exactement du même fabricant, qui ont exactement la même formule, mais dont la boîte change, puis on attend un petit peu, et on garde les deux ou trois boîtes qui marchent, les deux ou trois emballages qui marchent correctement, on élimine les autres, et les gens ont l'impression d'avoir le choix. C'est la même chose.
Enfin, c'est pas tout à fait nouveau, puisqu'il y a eu déjà plusieurs tentatives en France. Oui. Il y en avait une à Toulouse, de journal gratuit, que finalement la famille Bellé a réussi à supprimer. Mais moi, à mon avis, ça reflète plus généralement la crise générale de la presse avec le changement des méthodes de mise en page, d'impression, la diffusion de nouvelles par Internet, toute une série de techniques qui permettent de faire des journaux beaucoup moins coûteux, avec beaucoup moins de moyens. Et dans le même temps, comme le disait Jean Madiran, il y a des rédactions toujours pléthoriques, plus que pléthoriques dans un certain nombre de journaux. Et on ne va pas trahir de secret, mais on connaît tous ici des gens qui travaillent au Figaro, dans lequel il doit y avoir 350 ou 400 journalistes, et où les rares journalistes que nous connaissons nous disent « mais on n'est qu'une vingtaine à travailler, ou une trentaine, parce qu'il y en a 200 qui écrivent un article par an, mais on les garde. »
Oui, ça a toujours été comme ça.
Oui, mais ça...
C'est pas nouveau.
La seule chose, c'est ce qu'il faut bien faire comprendre aux auditeurs, c'est que pour une fois, les journaux qui en fait sont payés par la publicité, ont peur que la publicité leur échappe, Et donc ils sont extrêmement inquiets, alors que nous, nos journaux dans lesquels il n'y a pas, pratiquement pas de publicité, souvent nos abonnés nous disent c'est trop cher. Mais en fait, c'est parce qu'on n'a pas la pub. Et ça, pour une fois, eh ben, ils sont un peu inquiets. Moi, je trouve que c'est parfait qu'il y ait des journaux gratuits. En plus, c'est des journaux qui vont faire quelques pages. Les gens n'ont plus le temps, souvent, de lire des journaux qui sont trop épais. Si ça leur suffit, en plus de l'information qui est diffusée par la télévision et la radio, mais si ça leur suffit, ils n'ont vraiment pas besoin de se pervertir encore plus en achetant Le Monde ou Le Figaro. Les seuls journaux qui méritent d'être achetés, c'est des journaux d'opinion, de réelle opinion, comme les nôtres, ou qui soient d'extrême gauche, ou de ce qu'on voudra. Mais ça, c'est des journaux où les gens achètent vraiment, il y a une idée, une opinion.
Oui, mais Emmanuel, ce qu'il faut bien voir, c'est que les journaux d'opinion comme les nôtres, comme vous le dites, les journaux d'opinion comme les nôtres, c'est ceux qui sont en voie de disparition. Si vous, tout le mouvement de la presse, du capitalisme de presse et de l'État dans la presse, car il y a aussi la masse de la publicité d'État, directe ou indirecte, l'électricité des entreprises d'État qui étaient ou qui sont encore monopolistiques, des monopoles, font de la publicité auprès d'eux. Pourquoi? Pourquoi l'électricité de France vous fait de la publicité?
Oui, ça c'est fabuleux. Acheter de l'électricité à EDF. Ah,
parce que alors, c'est pas simplement les gros groupes. Il y a les gros groupes, certes, très importants.
Pour voyager par le train.
Et il y a l'État par un autre, par de la publicité. Et ça a servi. Le gros mensonge, c'est de faire une presse dite d'information. Aujourd'hui, c'est pas Le Quotidien qui peut donner l'information. Mais ils ont fait une presse d'information, c'est-à-dire une presse qui cache son opinion derrière sa manière de présenter soi-disant des informations, et par son volume et ce faux semblant de sa réussite, hein, se faisant discréditer la concurrence de la presse d'opinion. Et la presse d'opinion, le nombre de journaux d'opinion sont devenus de plus en plus rares avant la guerre, après la guerre, et de moins en moins, et de moins en moins de journaux d'opinion.
Et maintenant, on vous dit, il n'y a plus de journaux d'opinion, il y a des journaux extrémistes.
Parce qu'ils reconnaissent l'humanité et la croix comme journaux d'opinion.
Bon, alors voilà, c'est tout. C'est les deux seuls journaux d'opinion.
Comme quotidien parisien.
Je crois qu'il faut bien que nous nous rendions compte que nos journaux, à nous, qui sont des journaux libres, nous sommes pris dans une tenaille qui, d'une part, c'est le capitalisme avec les banques et la publicité, et d'autre part, quand même, la CGT, l'histoire qui s'est passée, quand même, de ce journal libre dont on a été cassé l'imprimerie. Le journal vendu librement comme ça, on peut en discuter. Mais l'intervention...
Distribué gratuitement, tu veux dire.
Oui, l'intervention du commando cégétiste dans cette imprimerie est quand même quelque chose qui n'a pas été
ça
tellement
fait,
médiatisé.
Ça fait 25 ans que ça dure.
Oui, mais c'est pour ça. Mais que ça dure encore.
Mais plus de 25 ans. Voilà. Jean-Claude, les grandes grèves des NMPP, de la distribution au NMPP en 97, des gendarmes ont été poignardés.
Je crois qu'il ne faut pas que nous oublions que nous avons un adversaire avec...
Un rédacteur en chef de l'AFP qui a été tué par une explosion d'une bombe parce qu'il avait le même nom, Cabane. Il avait le même nom qu'un rédacteur en chef du Parisien. Les circonstances de la mort d'Amaury dans un accident de cheval sont plus que douteuses. Donc on sait bien qu'il y a eu des actes de terrorisme. Et je me souviens que le premier acte de censure dans l'histoire de la presse française, de censure à une imprimerie, a été perpétré par Le Livre contre Minute, dont les plaques offset ont été martelées parce qu'elles donnaient les noms des chefs d'un commando de la CGT communiste du Livre qui avait monté une opération
Maurice Lourdes,
absolument. Le nom de Maurice Lourdes était donné dans Minute. Et à l'imprimerie, c'est la première fois dans l'histoire de la presse française que ça a été fait. Je rappelle que pendant l'occupation, le Livre n'a jamais... Les syndicats de l'imprimerie française n'ont jamais arrêté la parution d'un seul journal collaborationniste. Jamais, jamais, jamais. Donc pour la première fois dans l'histoire de la presse française, un journal a été censuré. C'était dans les années 70. Minute a été censuré au marteau. Les noms des lignes du journal ayant été martelés sur la plaque offset parce qu'on donnait les noms des chefs d'un gang de la CGT.
Marquez, donc, c'est normal que la CGT
c'est pas d'aujourd'hui, ça fait 30 ans au moins, ou 40 ans que ça dure ces histoires-là. Et dans une impunité totale, j'ai entendu sur je ne sais plus quelle radio, je crois que c'était Europe d'ailleurs, l'organisateur de l'attaque contre le journal Métro à Marseille, donnant son nom, revendiquer son action. On sait absolument qui c'est, ce type. Si on met Beauvais en prison, lui doit aller en taule aussi. Il a fait exactement la même chose.
Mais il défend la liberté comme Beauvais défend le syndicalisme.
Voilà, mais Beauvais a été condamné, lui, il ne sera jamais condamné parce que lui, il a le Parti communiste derrière lui. Voilà. Beauvais, même s'il a une organisation solide, c'est quand même pas le Parti communiste.
Et ce qui est typique, c'est quand on en vient, pas au quotidien, mais aux hebdomadaires, depuis maintenant un certain temps, il y a un hebdomadaire qui est distribué gratuitement à Paris, dans le métro parisien. Donc, avec les syndicats qui sont à la tête de la RATP, et eux, on leur a jamais saccagé leur système de distribution. Mais c'est un journal qui concurrence largement certains hebdomadaires.
Mais les hebdos, remarquez, les hebdos gratuits, ça existe en province depuis longtemps. Et
oui, mais des journaux d'information, comme le journal qui est distribué dans le métro, oui. Où c'est vraiment de l'information, c'est pas un journal uniquement de petites annonces gratuites.
Je vous propose de changer de sujet, parce que là, on a peut-être été un petit peu boutique, ou un petit peu corporatif pour les auditeurs. Puisqu'on parlait de Marseille à l'instant, j'ai remarqué une chose assez amusante, c'est que le métro de Marseille, là je parle pas du journal Métro, je parle du métro de Marseille, a été saboté par des vigiles embauchés par le métro de Marseille pour faire respecter l'ordre dans le métro. Et j'ai pas vu les vigiles en question, mais si je m'en rapporte à ce qu'on voit quand on va dans les grandes surfaces, je me demande si on n'est pas dans un cas de figure équivalent. Est-ce que ça vous inspire une réflexion, ça, non ?
Sur,
Moi, ça m'inspire exactement la même chose que ce fonctionnaire de police qui avait été condamné, dont Jean-Madiran, bon, présent, en a parlé quelques journaux. Ce fonctionnaire de police, enfin, c'était un jeune issu de l'immigration, dirons-nous, qui avait été condamné, qui avait été refusé, puisqu'il avait plusieurs condamnations dans la police. Deux ou trois ans après, il est accepté. C'est pas du tout un adjoint de sécurité. Hein. Il était fonctionnaire au-delà de... pas de premier niveau. Et il renseignait...
Des auditions téléphoniques,
les syndicats de police. Il a été adjoint de sécurité. Il a volé à nouveau. On l'a retiré des adjoints de sécurité pour le mettre directement à la police, qui est encore plus énorme.
Alors qu'il avait commis des vols
avant d'être adjoint de sécurité.
Il a été vidé
pendant. Voilà, c'est
vidé.
Encore plus énorme.
Il a été réintégré sur munition du Conseil d'État, c'est ça, hein, et ensuite il a été versé dans la police directement.
Bon, et il prévenait donc, pour les gens qui ne sauraient pas,
avec
il prévenait donc. Avec une
habilitation secret défense.
Oui, et il prévenait les trafiquants de drogue qu'il allait y avoir des descentes.
Enfin, il se faisait payer en drogue, hein, quand même. Bon. Il faut savoir, donc c'est une forme de suicide.
Bah, à mon avis, c'est exactement la même chose que les problèmes du métro de Marseille. Voilà.
Ou de l'affaire des dernières tentatives d'attentat sur l'avion, là, le raid, le terroriste issu des Caraïbes. Il faut savoir qu'il est passé au contrôle de sécurité tranquillement, puisque les contrôles de sécurité étaient... Air France et l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle avaient sous-traité à une entreprise privée le contrôle de sécurité de l'aéroport, entreprise privée dont le personnel était majoritairement constitué de jeunes issus de l'immigration et qui, donc tôt le matin à l'heure où l'avion partait, plutôt que d'être à leur poste, comme on était en période du Ramadan, étaient partis, avaient déserté leur poste pour partir se restaurer, ce qui a permis à l'individu susnommé de prendre l'avion sans être contrôlé.
Vous parlez comme un rapport de gendarmerie, l'individu susnommé. J'espère que c'est mieux écrit, votre lettre Fersan, hein, mon petit Fersan. C'est pas très sérieux tout ça, l'individu susnommé.
Ah ben, pas de ma faute, tiens, je suis fils de fonctionnaire, ça laisse des traces.
C'est très précis. C'est très précis.
Je suis fils de fonctionnaire.
Non, mais d'autant qu'il l'avait pas nommé sus, donc ça vaut pas son truc. Alors, l'affaire de la Seine-sur-Mer. L'excellent monsieur Ferrer, qui a effacé un violeur tunisien d'un coup de fusil bien placé, au motif que cette brillante chance pour la France venait de violer sa petite fille de 13 ans.
Il faut le soutenir.
Oui, bien sûr.
Moi, je pense que
il faut le soutenir, mais je trouve que cette affaire montre encore une imposture. On nous a donné tout à fait récemment une série de sondages pour nous prouver que les Français étaient de plus en plus opposés à la peine de mort. ce qui est parfaitement contradictoire d'ailleurs, puisqu'on nous dit que l'insécurité, entre guillemets, est le problème numéro un, la préoccupation première des Français. Or, donc, un geste comme celui de M. Ferrer et le soutien local dont il bénéficie montrent que les gens sont profondément attachés à une peine radicale pour au moins certaines catégories de tueurs, enfin, ou de tueurs ou de criminels. Oui.
Ce que l'affaire montre, je crois, moi, je crois, et la raison, Jean-Claude, il faut le soutenir, oui, bien sûr, il faut surtout montrer que ce qu'il faut soutenir, c'est pas exactement son acte, c'est le fait que c'est un acte de ce genre devient inévitable, devient malheureusement inévitable à partir du moment où il n'y a plus de justice qui remplisse son rôle. Je crois que c'est ça qu'il faut dire. C'est pas apporter un soutien qui inciter les gens. Si on vous fait quoi que ce soit, faites comme lui, tirez, etc.
Ah ben, pas quoi que ce soit, mais enfin, quand, si on viole une petite fille de 12 ans, que le père décide de
faire
de
justice,
le problème, c'est quand même le problème de la vie en société. Voilà. C'est que la justice est faite pour cela. Et ce qui est important dans l'affaire, c'est parce qu'il y a une décomposition de la justice, c'est parce qu'il y a à juste titre une perte de confiance en la justice que cela devient inévitable.
Inévitable. L'un d'entre vous a-t-il déjà lu le livre de Sophie Coignard qui s'appelle Dossier Omerta 2002 ?
Non, je ne
sais pas. Bon, c'est un bouquin à lire absolument toutes affaires cessantes. C'est ahurissant. Il y a un chapitre sur la justice. J'en ai fait un article dans le prochain Libre Journal. Il y a un article sur la justice qui est renversant sur le désordre des affaires judiciaires, sur la présence au sein du système judiciaire français de magistrats, c'est-à-dire de juges, magistrats instructeurs, juge de première instance, juge de correctionnel, juge au pénal, juge d'application des peines, procureur, substitut, qui sont des voleurs, des violeurs, des pédophiles, des drogués,
des
drogués, des trafiquants de mobilier volés. C'est ahurissant.
Mais il y a plus grave
je n'ai pas fini, Jean. Ces gens-là, raconte Sophie Coignard, sont pris. C'est-à-dire qu'on les connaît, on sait qui ils sont.
Oui.
Il n'est pris contre eux aucune sanction pénale. La pire des sanctions qu'on prend contre eux, c'est de les déplacer d'un ressort dans un autre. Et elle raconte une histoire que j'ai reprise dans le Libre Journal, tellement elle m'a paru, mais inimaginable. Un juge d'application des peines extrait de sa prison un trafiquant de drogue, l'embauche comme chauffeur, le loge chez lui, lui fait une fausse ordonnance de mise en liberté provisoire, avec laquelle le trafiquant de drogue en question vit à l'extérieur, ce qui lui permet de séduire une autre magistrate, également juge d'application des peines. Comme il vit à l'extérieur, il monte une bande de braqueurs de camions qui sévit sur les autoroutes. Il se fait piquer par les gendarmes qui ne comprennent pas comment ce type qui est en prison peut être en même temps chef d'un gang de braqueurs de camions. Donc ils l'arrêtent, et puis ils établissent, ils trouvent la vérité. La maîtresse, juge d'application de ce trafiquant de drogue, était juge d'application des peines, chargée du père du trafiquant de drogue, qui était également en prison pour trafic de drogue. Et elle servait de truchement entre le fils et le père, et les gendarmes ont enregistré une conversation téléphonique dans laquelle cette femme, ce magistrat, ce juge d'application des peines, dit à son amant « J'ai vu ton père hier, il voudrait qu'on lui fasse un petit enfant. » On est dans le délire incroyable. Bon, donc cette affaire finit par péter, on arrête tout le monde. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? Eh bien, d'abord, en ce qui concerne les deux magistrats impliqués, rien. C'est-à-dire qu'on les déplace. Le magistrat juge d'application des peines qui exerçait dans le Midi, est envoyé exercer dans la banlieue parisienne. Où il met du beurre, il est dans la banlieue parisienne en activité à l'heure actuelle, et il met un peu de beurre dans les épinards en donnant des conférences au patronat français pour expliquer au patron français comment il faut se comporter devant un magistrat si on risque d'être mis en examen. Non mais on croit rêver, non? La magistrate, elle est toujours en activité, mais ailleurs. Mais le trafiquant de drogue qui a été arrêté, qu'est-ce qui lui est arrivé? Sur quoi a-t-il été arrêté? Il a été arrêté sur une écoute téléphonique. Or, cette écoute téléphonique a été jugée illégale.
Procédure supprimée.
Voilà.
Annulée.
La procédure a été supprimée. Et donc ce type qui était trafiquant de drogue en prison, libéré sur une fausse ordonnance de juge, et chef d'un gang de camionneurs, il a été remis en liberté. Et Dieu merci quand même, parce qu'il y a un petit peu de morale dans cette histoire, il s'est fait finalement arrêter dans un nouveau trafic de drogue. Et en ce moment, il est en prison. Mais les deux magistrats qui sont dans cette affaire, les complices évidents de ces voyous, sont non seulement en liberté, non seulement n'ont eu aucune sanction pénale, mais ils n'ont même pas eu de sanction professionnelle, ils ont simplement été déplacés. Et ce sont ces gens-là, quand on comparaît devant eux, qui nous font la morale, qui nous disent « Monsieur, vous comparaissez devant moi pour infraction à la loi sur la haine raciale, parce que vous avez trouvé qu'il y avait trop d'immigrants en France, c'est inacceptable, je vais vous triquer ferme, et ils vous collent 100 000 francs d'amende, gros comme une maison ». Mais c'est invraisemblable. Enfin, ça appelle la révolution, bon
mais,
sang.
Mais mon cher Serge, je disais qu'il y a plus grave. Le plus grave est que nous connaissons, puis finalement, nous n'en tirons pas les conséquences. Nous savons que la magistrature est infectée de trotskistes, que le syndicat de la magistrature est trotskiste, c'est-à-dire léniniste, c'est-à-dire de gens qui n'ont absolument pas la conception traditionnelle de la vérité, de la justice, du bien et du mal. C'est-à-dire donc qui introduisent des mœurs d'inversion et de révolution dans la manière d'instrumentaliser la justice. Alors, ça dit que c'est plus grave parce qu'un voleur peut très bien prêcher la morale aux autres, n'est-ce pas? Et même peut-être quelquefois appliquer des peines à des voleurs qui ne sont pas lui-même. Mais un véritable léniniste, non.
Mais vous avez le ministre actuel de la justice, Madame Le Branchu, qui dans son autobiographie revendique le fait qu'elle a été maoïste voilà. Et au Parti communiste marxiste-léniniste de France. Tout le monde la prend pour une aimable modérée.
Oui, je crois hélas que ce n'est pas seulement l'influence trotskiste, qu'il y a une dégénérescence totale quand même de l'esprit civique ou de la moralité publique. J'en veux la preuve.
Mais les deux vont ensemble.
J'en veux la preuve, les derniers scandales qui ont ébranlé l'armée. Avec des généraux mis en examen pour détournement de fonds.
Ah oui,
l'affaire de la DCN à Toulon est une affaire qui est peut-être criminelle. Enfin,
oui.
Criminelle
oui, au sens
propre. Il y a peut-être eu un assassinat où on a neutralisé un témoin.
Et l'affaire de la sécurité...
Avec un ponte de la DCN qui enterre les dollars dans le jardin. Enfin,
comme un vulgaire joueur de football.
C'est lamentable à dire, mais enfin, il y a récemment eu un procès avec deux jeunes Saint-Syriens qui ont été violés, qui ont été jugés pour le viol d'un de leurs camarades. Donc, c'est quand même des milieux qu'on pouvait penser moins touchés. Or, là, nous assistons véritablement à une totale...
Déréliction,
une totale déliquescence de la moralité publique.
Et c'est ça. Énorme,
et, malheureusement, on y viendra peut-être. Enfin, les deux grands candidats, comme on nous le dit, leur candidature et leur présence en lice ne peuvent qu'encourager cette chute de la moralité publique.
On ne voit vraiment pas au nom de quoi ce qu'ils n'ont pas fait pendant... Enfin, c'est tellement évident ce que je veux dire. Ils n'ont rien foutu pendant 7 ans pour éviter ça. Au contraire, ils
n'ont fait
que
l'aggraver. Non, mais je veux dire leur personnalité. Je veux dire leur personnalité les deux voleurs. Parce que quand on voit l'affaire Telade et les conditions d'achat du siège du Parti socialiste, c'est quand même absolument invraisemblable. C'est une affaire comment on offre 40 millions d'un immeuble et pour les trois syndicats qui en sont propriétaires le vendent 17 millions au Parti socialiste. Et ce partage ce peu d'argent, mais j'aimerais savoir peut-être quels étaient d'autre part les dessous de table avec les fonds secrets de M. Mauroy et de de l'Élysée.
Ce qui est très amusant dans cette histoire.
Monsieur Jospin étant tout de même à l'époque premier secrétaire du Parti socialiste.
Et M. Tolade, le suppléant de M. François Hollande.
Voilà, exactement. C'est quand même là c'est le Parti socialiste au plus haut niveau.
Oui.
Donc, je vous dis, les deux principaux candidats sont aussi bourbeux et braineux l'un que l'autre.
Alors, tu nous as montré, Jean-Claude, tout à l'heure, l'affiche, les deux affiches qui ont été reproduites par Le Monde. Les deux nouvelles affiches du Front National qui sont Chirac et Jospin avec le nez de Pinocchio.
Avec le nez, un grand nez de Pinocchio, je vous trouve ça Chirac, immédiatement. Et naturellement, c'est à ce moment-là. Non, pas. Voilà.
Oui. Alors, c'est ça. Donc, il y a deux affiches, format panoramique, où ils ont tous les deux le nez de Pinocchio. Et Chirac dit : Je n'ai jamais rencontré Le Pen. Et Jospin dit : Je n'ai jamais été trotskiste. Ça, c'est très rigolo, ça.
Et Le Monde a publié les deux photos.
Je disais à propos de l'affaire Telade. Il y a une dimension particulièrement comique dans cette histoire, c'est que à l'origine, elle explose à la suite d'une guerre fratricide entre francs-maçons. Un des gangs maçonniques essayant de porter l'incendie chez l'autre, selon la vieille règle que quand on se bat avec des torches dans une réserve de poudre, on finit toujours par se brûler quelque part. Ça provoque un cataclysme, alors qu'à l'origine, c'est une toute petite histoire de rivalité à la tête de la mutualité, où ils essayent de liquider M. Davant, qui lui n'est pas maçon et qui veut pas être maçon, et donc qui résiste à ça. Donc on lui met dans les pattes des dossiers pourris en essayant de faire croire qu'il n'est pas honnête, et lui, il réagit comme les gens simples en disant « Moi, on m'insulte, je porte plainte ». Donc il porte plainte, ça donne lieu à l'ouverture d'une enquête et on s'aperçoit que c'est pas du tout lui qui est l'escroc mais ceux qui l'ont accusé et ça débouche sur ce cataclysme qui est peut-être en préparation.
Je crois qu'on va rentrer dans une période où le candidat Chirac et le candidat Jospin vont tout se dire et essayer de tout sortir. Mais
qu'on va avoir un deuxième tour avec Chevènement et Laguillé
et Le Pen.
Ah bon, voilà, j'attendais quand même.
Merci beaucoup.
Je voulais pas le dire moi-même.
non, mais je crois que si vous voulez. Mais je crois que les Français en ont marre de ça. Vraiment, il y avait encore dans le Canard enchaîné aujourd'hui sur le personnel de l'hôtel de ville qui allait en Corrèze. Où va-t-on aller?
Ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je voulais qu'on en parle justement de cette histoire des cuistots de l'hôtel de ville qu'on transportait en autocar ou en train ou en camion ou en voiture jusqu'au château de Biti pour préparer la tambouille pour les invités de Chichi et de Pétrolette. Mais entre nous, c'est pas très sérieux.
Il y a pire.
Il y a évidemment pire. Et d'autre part, il n'y a pas un général, il n'y a pas un officier supérieur en France qui n'ait pas utilisé à des fins personnelles son ordonnance, le cuistot du mess, les petits bidas qu'on fait servir le dimanche quand on fait des repas de famille et tout. Enfin, voilà. Tout ce que nous connaissons.
Comme les chefs syndicalistes, par exemple.
Par exemple,
M. Blondel.
Blondel avec ses chauffeurs. Enfin, bon,
il n'était pas le seul.
Non, certainement.
Des pseudo-chrétiens.
Alors, on en vient à se demander, d'ailleurs, et c'est pour ça que je voulais parler de cette histoire qui est totalement subalterne, mais on en vient à se demander si c'est pas l'entourage de Chirac qui balance des informations complètement bidons au Canard enchaîné pour qu'il s'occupe d'autre chose.
Je trouve cette affaire totalement accessoire.
C'est dérisoire.
Mais ça fait quand même une demi-page du Canard de...
Oui, mais pourquoi? Pendant ce temps-là, on parle pas du vrai.
Voilà. Oui, mais enfin, ça vient quand même s'ajouter à beaucoup d'éléments à propos de la Corrèze. comme quoi il avait des permanents qui étaient sur place, bon, il déplaçait les chauffeurs, l'imprimerie de la mairie servait pour imprimer le journal, ça servait pour imprimer toutes les cartes de vœux de Madame Chirac, qui est conseillère générale de Corrèze, en fait, etc. Ça vient s'ajouter. Bon, et vous avez beau dire que ça ne représente pas grand-chose, ça finit par représenter des dizaines et des dizaines de millions de francs.
Oui, mais par rapport au reste, c'est rien, d'une part, et
oui,
d'autre
c'est
part,
pas excusable
vous aurez
ça.
Quand même du mal à me convaincre
dans n'importe quel autre, dans un certain nombre de pays du monde, quand vous amusez à ce genre de choses, si vous utilisez par exemple en Islande votre voiture, la voiture officielle pendant, alors que vous n'avez pas le droit de l'utiliser à titre privé, eh ben, y a eu des gens qui ont été amenés à quitter le gouvernement. Il y a eu un ministre qui avait gardé son... il a interdit à Reykjavik, par exemple, d'avoir un chien. Elle l'a gardé secrètement. Elle est obligée de démissionner. Eh ben, en France, tout le monde s'en fout. Alors moi, je suis désolé, mais même si c'est pour 500 000 francs, je trouve ça inadmissible. Et il ne faut pas dire... c'est parce que ce n'est pas énorme somme qu'il faut l'accepter.
Emmanuel, on ne s'est pas compris. Je ne prétends pas du tout que c'est sans gravité. Je ne dis pas ça. Je dis simplement... je trouve... c'est peut-être paranoïaque ce que je dis, mais je trouve bizarre que dans le chaos des affaires, dans la cataracte des affaires, d'un seul coup...
Le tsunami
des scandales, on vient nous balancer une histoire de corne-cul, de cuisiniers qui vont faire la bouffe pour Pétrolette et Chichi. C'est pas sérieux, ça tient...
Vous savez, les gens, ils se souviennent toujours des chaussures de Roland Dumas sur mesure à 12 ou 15 000 francs.
Oui,
ça lui a fait plus de tort que le scanner à 8 millions offert pendant sa campagne.
En plus, c'était des chaussures qui n'avaient même pas de semelles truquées. Il n'aurait même pas pu foutre le feu à un avion.
On se souvient aussi du coup du manteau de Michel Noir.
Ah bon, vous vous souvenez de ça?
Le film en scène.
Bien, sur ces questions-là, alors je vous propose un nouveau sujet maintenant qui est la disposition annoncée par Lang ce matin. On va enseigner le français à l'école. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris puisqu'il a dit qu'il allait apprendre une langue étrangère aux enfants. Donc, c'est probablement des cours de français qu'il va donner, j'imagine.
Oui, des cours de français qu'il va donner aux enfants de l'immigration extra-européenne.
Et le sondage donne qu'en 6e, la plupart des enfants ne savent pas écrire, ne savent pas lire et ne savent pas compter.
Alors... c'est pas une raison pour taper sur la table,
Jean-Claude.
Pardon, on va demander à Miguel de nous offrir une table tout à l'heure.
Je crois que la promesse de le plan langue, enfin, pour que les enfants qui rentreront en 6e soient tous sachent tous lire.
80% des enfants entrant en 6e devront savoir lire.
Voilà. Bon, 80%, oui. Je pense que c'est exactement comme Chirac avec le plan impunité zéro. Enfin,
ça, quand même, oui.
C'est même pas des gadgets électoraux, parce que les gadgets, ça sert quelques jours en général. Tandis que là, ça n'est même pas destiné à servir. Enfin, on sait très bien que ce qu'un camp ou l'autre soit élu, ce sera aussitôt oublié.
Oui, Tweedledum.
En fait, ce qu'il y a quand même dans cette affaire, c'est qu'il y a quand même derrière un certain nombre d'organismes qui dépendent du ministère de l'Éducation nationale, la direction des programmes, le CRDP, le Centre de documentation pédagogique, etc. Et depuis plusieurs années, il y avait une tentative qui était assez poussée, qui allait vers la simplification de l'orthographe et du français.
Mais les gosses s'en occupent très bien.
On peut dire ce qu'on veut, mais il y avait quand même une tentative de simplifier toute une série de règles de grammaire, supprimer un certain nombre de lettres en français, puisqu'il y a eu des circulaires, enfin des études qui ont été faites, supprimer le Y, supprimer le PH au profit du F, etc.
C'est un scandale.
Je ne dis pas du tout que Jacques Lang, eh bien, ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de gens à son ministère, peut-être sous la pression de l'Académie française, du Comité de défense de la langue française et ce genre de choses, qui ont dit, bon, en fait, c'est destiné à un certain nombre de gens qui voulaient encore innover pour altérer encore la langue française.
Vous pensez que ça les arrêtera, là? Vous pensez qu'ils donnent un coup d'arrêt?
C'est pas du tout un coup d'arrêt, c'est qu'il leur est dit que ces tentatives de simplification du français qui étaient préparées depuis longtemps, pour le moment, on les prend pas.
Mais moi, je trouve ça dommage, parce que je suis absolument partisan de la crétinisation des jeunes classes. Si, je vais vous expliquer pourquoi. C'est extrêmement simple. Ça va pas plaire, mais c'est exactement pareil. Nous, on appartient à des milieux où on a reçu une certaine culture. Nous, on est capable de transmettre à nos enfants une certaine culture. Donc, on n'aura pas d'effort à faire particulier pour fabriquer des élites. C'est beaucoup plus difficile d'élever nos enfants que de laisser les autres abaisser les leurs. Donc, je dis, laissons fabriquer des abrutis et contentons-nous, en famille, d'essayer de faire des enfants qui ont deux hémisphères cérébraux qui fonctionnent à peu près en phase et qui ont un vocabulaire de plus de 200 mots. Comme ça, on est sûr qu'ils feront une belle carrière. C'est tout.
Pour déjà être présentateur à la télé.
Pour déjà être présentateur à la télé, exactement.
Ce qui est le... Marqué, ça semble être la philosophie de Jack Lang.
Ben oui, bien sûr.
Parce que j'avais été très surprise que quand sa petite fille a eu 2 ans, qu'il lui avait acheté l'intégrale des symphonies des œuvres de Monteverdi et de magnifiques albums sur Véronèse. Et,
il lui a pas acheté Joystar et...
Non, apparemment voilà. Non.
Ouais, c'est sa mère.
Donc vous voyez, c'est pas si bête ce que je dis, parce que même Lang a compris. Donc c'est vraiment à la portée de n'importe qui. Hein. C'est assez élémentaire comme raisonnement.
Laisser... C'est une forme d'élimination.
Oui, c'est ça, absolument.
Oui, mais quand même
moi, je suis pour le génocide intellectuel.
Il n'est pas ministre de l'Éducation nationale pour cela.
Bah, qui sait? Qui sait, justement, si c'est pas pour ça qu'il a été mis à l'Éducation nationale? Vous vous avancez beaucoup, je trouve, Jean. Quand on sait ce qu'on sait et qu'on voit ce qu'on voit, on est bien content de penser ce qu'on pense du part. Mais surtout, on peut s'interroger sur les vraies raisons qui font que Lang a été mis à l'Éducation nationale et qu'il pratique...
Pour crétiniser tout...
Mais absolument, moi j'en suis convaincu, ça fait partie d'un plan... dont on connaît l'origine.
Ah non, c'est pas impossible, c'est pas impossible, ça bien entendu. Oui, oui.
Bah, je crois que, d'autant qu'il ne le juge pas comme
ça. C'est typique des familles de ferrailleurs.
Il ne le juge pas comme une crétinisation, il le juge comme la table rase nécessaire au progrès.
C'est une grande famille de ferrailleurs, les Lang, vous savez. Donc c'est typiquement une pensée de ferrailleur, ça. Enfin, moi, c'est mon opinion. Maintenant, je peux me tromper.
C'est mon opinion et je la partage.
Et je la partage. Voilà. D'autres choses sur les langues étrangères à l'école, non? Bon, alors maintenant...
J'ai un message d'auditeur. J'ai un de mes petits-fils qui est en quatrième. Le programme de littérature française, c'est la science-fiction. Corneille et Racine connaît pas.
Mais c'est très bien, la science-fiction. Moi, j'en ai lu beaucoup. C'est très, très bien.
L'un n'empêche pas l'autre.
Je dois dire que j'ai quand même pas beaucoup lu Corneille et Racine, sauf ce qu'on m'avait obligé à lire en me tordant les bras dans le dos quand j'étais à l'école.
Et justement, c'est pour ça qu'il faut la lire en classe. Sans ça, on ne le lira pas.
Rêve de fer de Norman Spinrad.
Voilà un livre admirable.
Obligatoire à lire dans toutes les écoles.
Le maître du haut château.
Ah, voilà, la vérité avant-dernière.
Voilà, la vérité avant-dernière. Tiens.
Oui, mais vous voulez les en dégoûter si vous le rendez obligatoire. Ils liront Corneille et Racine dans leur loisir, dans ce cas-là.
Si on leur fait lire Lovecraft avec quelques diatribes qui tombent sous le coup de la loi Guesso, c'est
le mec extrêmement mal pensant, Lovecraft.
Je crois que c'est tout ce que j'avais vu. Alors maintenant, je me tourne vers vous et je vous demande ce que vous allez faire dans vos journaux aussi respectifs que respectables. Je vais commencer par Emmanuel Ratier parce que je viens de recevoir le dernier numéro de Faits et Documents où il y a alors un document. Il y a toujours beaucoup de choses dans Faits et Documents, il faut bien dire. C'est passionnant. Vous êtes tous d'accord, je pense.
Absolument. Voilà.
Mais là, dans le dernier numéro, il y a un truc exceptionnel, enfin qui, moi, ça fait partie des choses que j'aime particulièrement découvrir dans la presse. C'est le... On peut en parler, ça vous gêne pas, Emmanuel? Qu'on trahisse le contenu.
Au téléphone, vous m'avez dit que je vous avais brûlé la politesse parce que ça fait longtemps que vous aviez envie de faire quelque chose.
Oui, c'est pour ça que je trouve ça bien, parce que j'avais envie de le faire. C'est un document stupéfiant, renversant, sur... une société secrète de pouvoir qui s'appelle le Bohemian Club.
Ah ben c'est passionnant, ça, c'est tout à fait passionnant. Ce qu'il
alors racontez-nous en deux mots, parce que tous les auditeurs de Radio Cantosi, je me suis laissé dire en tout cas, ne sont pas abonnés à Faits et Documents.
Pas encore.
Non, mais en fait, bon, c'est une association qui existe à peu près depuis qui s'est créée, en fait, il y a fort longtemps, mais qui à l'origine réunissait des journalistes aux États-Unis, et puis très vite, c'est devenu une association qui a regroupé des hommes de pouvoir et qui a pris un essor assez important durant la Seconde Guerre mondiale parce qu'il y avait pas mal de physiciens et de scientifiques qui étaient en même temps que des militaires. En fait, c'est une espèce de club qui réunit des gens de puissance, surtout américains, mais un petit peu au niveau international, d'Amérique du Sud. Bon, il y a quelques Français qui ont fait partie. Il y a eu notamment Valéry Giscard d'Estaing, Jean-François Poncet et Michel Rocard. C'est les trois seuls que j'ai réussi à identifier sur à peu près 30 ans. Et ils se réunissent. Bon, ils font de temps en temps des réunions, mais ils font une espèce de séjour, 15 jours, en été. Il n'y a aucune femme. mis à part pour le service et ce genre de choses, mais aucune femme n'est admise, c'est un club uniquement d'hommes, dans la tradition américaine, c'est-à-dire que ce sont des gens qui se réunissent entre égaux, on peut dire, donc là c'est vraiment le gratin du gratin, ils picolent comme des bêtes, parce qu'il y a eu des gens qui ont réussi à s'infiltrer malgré les gardiens, etc. Et comme c'est des journalistes américains, ils ont fait l'inventaire des bouteilles qui étaient bues, etc. Et c'est absolument impressionnant. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'ils se livrent à des cérémonies qu'on peut qualifier de païennes, c'est-à-dire qu'ils incendient un mannequin rituellement, ils sont habillés avec des toges, des capes, etc. Et c'est pas du tout, c'est pas du tout de la folie, voilà, puisque il y a eu un film qui a été tourné clandestinement, il y a des témoignages d'anciens membres, et ce sont pas des gens farfelus, parce que vous avez l'ancien président des États-Unis, enfin il y a eu X président des États-Unis.
Ce qui est très curieux, partie, c'est le
les députés, les présidents.
Si vous dites qu'il y a encore, c'est très sérieux.
Oui. Un président.
Ce qui est très curieux, c'est la rupture. C'est la rupture entre le niveau de pouvoir de ces gens-là et le caractère totalement
transgressif.
Oui, transgressif, c'est le mot, de leurs activités. C'est-à-dire qu'ils se déguisent, ils font des trucs à la limite de la partouze.
Oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, on peut dire même ça, à la limite d'ailleurs de l'homosexualité,
voilà,
de l'orgie.
Ça. Et ils font tout ça devant une immense statue d'un hibou. Enfin, c'est incroyable. Qui d'ailleurs ressemble à la figuration traditionnelle de Moloch. Et ils allument là-dedans un feu, et à l'issue d'une cérémonie à la fois grotesque et sérieuse, on ne sait pas trop, ils jettent dans ce feu un mannequin en carton, un mannequin humain en carton.
Donc, leur souci.
Et on est gouverné par ça.
Voilà, ils appellent ça les soucis, la crémation des soucis. Voilà.
Et on est gouverné par ça.
Et leur souci, c'est l'homme, en réalité.
Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a eu en tout et pour tout, en 40 ans ou 50 ans, il y a eu un article dans la presse française, il y a 15 ans dans Le Point. Ouais. Et il n'y a jamais eu un seul article. Et les articles aux États-Unis se comptent sur... il y a eu une dizaine d'articles. Mmh. Mais heureusement, il y a des gens de la région, parce que ça se passe en Californie, qui en avaient un peu marre, et qui ont monté un site internet. Donc ils ont réussi à infiltrer des gens, à faire des films, etc. Et ça n'est absolument pas...
C'est vertigineux.
C'est une mascarade, un peu à la manière du carnaval, du Moyen-Âge, où il y avait une espèce de transgression, la procession de l'âne, etc. C'est très très particulier, parce que ça ne s'adresse pas à des crétins, ou mais ce sont des gens de premier niveau. Il y a le PDG de Microsoft, il y a des gens comme ça, enfin, c'est le PDG IBM, des généraux, voilà.
Il y a un président, si je ne me trompe pas, un président des États-Unis et un président de la Chambre des députés américains qui, tous les deux, avaient des réputations d'être des hommes particulièrement de droite.
Eh ben, Ratier publie une photo dans laquelle on voit de chaque côté du président de la cérémonie Reagan et Nixon. Et la légende de cette photo, c'est au cours d'une de ces réunions que Reagan et Nixon, à l'époque, avaient accepté de différer leurs ambitions présidentielles pour permettre...
Et Reagan s'était effacé devant Nixon.
Voilà. Je faisais allusion effectivement à Reagan. Et...
Oh, mais il y a eu Newt Gingrich, qui était le patron de ce qu'on peut appeler la révolution conservatrice.
Quels sont donc les présidents, ce serait intéressant, y a-t-il des présidents américains qui ont été présidents sans être membre de cette association-là ou d'un autre club semblable?
Alors, tous les présidents républicains l'ont été, au moins depuis la Seconde Guerre mondiale. Tous les présidents démocrates ne l'ont pas été. Ah. Voilà.
Aucun président démocrate
n'a
été.
Ah, si, il y en a eu.
Ah, ils ne l'ont pas été tous, vous voulez dire.
Ils ne l'ont pas été tous.
Voilà. Oui.
Et lequel président démocrate n'y était pas? Carter, je suppose.
Non, Carter y était.
Non, Carter y était. Oui,
Carter y était.
Bon, mais j'ai pas voulu
Eisenhower
faire...
Eisenhower y était,
j'ai pas... Oui. J'ai pas voulu faire un... J'ai même publié une photo d'Eisenhower. Mm. Mais j'ai pas voulu faire un inventaire avec, les quelques milliers de personnes qui ont pu succéder.
C'est intéressant, qu'il faut savoir, c'est l'inventaire sur les présidents, c'est très intéressant.
En même temps, il y a un programme de conférences, et on voit qu'au milieu de ce délire...
Ils font des conférences,
ils font des conférences dont les sujets sont apparemment sérieux. Même très très sérieux.
Mais quel est le critère pour rentrer dans ce club?
Il faut être président des États-Unis.
Non, mais il faut avoir beaucoup.
Ça j'attendrons un peu.
Je ne sais pas si.
Il faut avoir du pouvoir et du fric.
Si ton candidat préféré sera coopté. Je ne sais pas. Non, il ne peut pas, il ne boit pas de toute façon. Alors il les intéresse.
Mais moi, ce que je trouve, c'est d'aller un peu sur le derrière des choses, exactement comme on a découvert plusieurs années après.
Bravo.
Quand Giscard a été battu, il s'est réfugié dans un ranch aux États-Unis, où il a été invité par M. Friedman, qui est l'homme qui ensuite s'est attaqué à L'Oréal. qui a fait le fameux procès à L'Oréal, qui leur a coûté des milliards, etc. Ce qui fait qu'après, ils ont été obligés d'investir de la publicité dans certains secteurs médiatiques où ils ne pensaient pas investir.
Est-ce que c'est celui de L'Oréal ou
C'est Jean Friedman.
Mais est-ce que c'est le Jean Friedman de L'Oréal ou est-ce que c'est le Jean Friedman de Chirac?
Ah non, ça n'a aucun rapport avec Chirac. Ça s'écrit pas pareil. Il y en a un, c'est Y, et l'autre, c'est IE. Mmh. Voilà. Non, c'est lui qui était actionnaire de L'Oréal. Bon, et c'est intéressant de voir, parce que ça, on n'en a pas parlé, que Jacques Chirac, que Valéry Giscard d'Estaing était allé chez lui se réfugier. Bon, après, c'est lui qui lui a fait faire ses visites en Israël, etc. Bon, exactement comme dans le livre qui est sorti, là, sur Chirac, on vous indique que Chirac s'est rendu 90 fois aux États-Unis, de 93 à 95, à peu près 90 fois, pour prendre des cours de communication auprès du conseiller du conseiller en communication de George Bush. Oui. Bon, or, personne, on n'en avait jamais entendu parler.
C'est pour ça qu'ils ont tous les deux le même air crétin. Voilà.
Moi, ce que je me demande, c'est sur quel budget ont été payés les billets d'avion du Concorde pour lui, sa fille, son garde du corps.
Vous croyez qu'un président de la République n'a pas assez d'argent pour se payer? Bientôt, il va nous expliquer que quand il part en vacances, il part aux frais de la princesse. C'est vraiment n'importe quoi, ça va-t-il.
Pouvait-on le croire?
Fais et documents, on peut l'avoir, le dernier numéro, moyennant le versement d'une somme modeste?
Oui, non, mais je l'enverrai aux gens. Si ça m'arrange, ils peuvent m'envoyer quelques timbres.
Ah oui, voilà. Ça vaut vraiment le coup. Hein.
On donnera la reste tout à l'heure.
Non, donnez-la tout de suite, parce qu'on va oublier.
Bon, BP 254, 75-424, Paris, CEDEX 09. Voilà. Mais le numéro avant et le précédent n'était pas mauvais sur l'espionnage israélien aux États-Unis.
Très bon, mais ils sont bons. C'est même un peu énervant, d'ailleurs, à force. Marie-Camille, quels sont vos sujets d'intérêt cette semaine
Le procès Milosevic, évidemment, de Milosevic.
C'est drôle ce qu'il est en train de faire. Il est en train de renverser complètement la vapeur, apparemment.
Vous savez, je pense que personne, un chef communiste qui a réussi dans le marigot titiste à neutraliser tous ses rivaux, n'est pas un imbécile.
Oui, c'est probable. C'est peut-être pas
quand on se maintient au pouvoir qu'on surnage et que ça demande une grande adresse dialectique et une grande énergie. Je pense qu'on peut reprocher beaucoup de choses à Milosevic, mais sûrement pas d'être bête et de manquer d'énergie, d'ailleurs.
Et il assure sa défense lui-même.
Voilà. Cela dit, s'il est tout à fait scandaleux, que le procès, s'il devait être jugé, ce n'est évidemment pas à la haie ni par un tribunal payé par M. Georges Soros et quelques autres, qu'il aurait dû l'être. C'était aux Serbes s'ils avaient quelque chose à lui reprocher, et je pense qu'ils avaient de sérieuses raisons de lui reprocher des choses, parce qu'il est incontestable qu'au début au moins, pour Milosevic, lancé dans la guerre pour maintenir son pouvoir et maintenir son clan au pouvoir pour des raisons politiques et peut-être également des raisons quelque peu financières. En tout cas, c'était aux Serbes de le juger. Ça n'était pas à un tribunal pénal international qui, le jour même où commençait le procès de Milosevic, renonçait l'ONU, renonçait à juger les Khmers rouges. Parce que ça, c'est absolument quand même qu'il y ait une totale amnistie de fait internationale des Khmers rouges qui, eux, n'ont pas... parce que les crimes imputés, en tout cas à Milosevic en Albanie, ça avait commencé à 200 000 morts, on est tombé à 14 000, maintenant c'est 900, enfin c'est un...
Oui, mais enfin, 2 millions de petits jaunes, ça vaut pas... vous savez, il faut quand même...
Écoutez, j'ignorais que jusqu'à présent, le prix des Albanais était si élevé, on s'en est préoccupé quand même très tard.
Si on les pèse...
Quand Enver Hoxha... laisser mourir des gens de pénurie dans les camps, etc., personne ne s'en occupait.
Non, là, le phénomène que vous avez souligné au passage, c'est cette amnistie qui demeure, non seulement des Khmers rouges, mais sur le plan international, sur le plan de la communauté internationale, à l'égard du communisme, même de la part de ceux qui ont parler de résister au communisme, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont applaudi à l'effondrement intérieur de la Russie des Soviets, à ce que ceci, cela. Mais il y a une chose qu'on ne doit pas faire, qu'on ne peut pas faire, c'est que, véritablement, le communisme n'est pas intrinsèquement pervers, c'est l'extrême.
Vous n'avez pas une petite idée de la raison pour laquelle ce procès ne se fera jamais ?
Mais il y a plus...
Moi, j'ai entendu dire que ces gens, quand ils étaient venus en Allemagne, les soviétiques, oui. Ils étaient repartis avec des camions d'archives. Oui. Je sais pas, c'est peut-être un fantasme, hein, mais on m'a dit ça, j'ai toujours entendu dire ça. Et mon impression intime, mais encore une fois, je peux me tromper, c'est qu'il pourrait peut-être y avoir un lien entre ça, l'existence de ces archives qui contiennent des chiffres, qui contiennent des faits, qui contiennent des preuves, etc., et le refus d'attraire devant les tribunaux les gens qui ont le contrôle de ces archives et qui pourraient dire bah, écoutez, si vous voulez qu'on fasse le, qu'on dise la vérité, on va dire la vérité sur tout, hein.
Oui, mais ça revient au même. C'est parce que le genre d'archives qu'ils peuvent avoir montre l'extraordinaire complaisance dont le communisme a toujours bénéficié auprès de gens qui paraissaient insoupçonnables et qui, en outre, n'étaient pas communistes.
Non, c'est les archives d'Allemagne.
Je pense les archives qu'ils ont remportées d'Allemagne nazie, vous voyez.
Oui, oui. Cela dit, je crois
qu'il y a plein de gens qui n'ont pas du tout envie.
Je crois qu'une des raisons aussi pour lesquelles on n'a pas très envie de juger le communisme, c'est que pour juger le communisme, il faut partir des origines, c'est-à-dire du léninisme, de la clique ou du clan léniniste.
Et ça deviendrait du racisme.
Surtout
si on remonte du clan Lénine au clan Marx Engels.
Imaginez que le directeur de Grille Lafayette, vous allez le voir et vous lui dites « Monsieur, j'ai la preuve que le Père Noël n'a jamais existé. Combien vous me donnez pour ne pas le dire ?» Il vous donne ce que vous voulez. Hein. Je dis ça. Donc si vous êtes menacé d'un procès et qu'il a les moyens d'intervenir pour que vous ne soyez pas poursuivi, il va se défoncer, le directeur de Grille Lafayette. Parce que pour lui, Père Noël, c'est quand même la grosse occasion de faire beaucoup de fric à un moment de l'année.
Mais pas sur l'existence du Père Noël.
Non, mais je prends cet exemple-là, comme ça, c'est bon, ça me passe par la tête, allez savoir pourquoi. Il y a un papier dans... Non, je vais vous donner la parole, ma petite Victorienne.
C'est
vous énervez
moi, c'est
pas.
Mes petits auditeurs, chérie.
Je vais leur donner la parole, mais je voudrais revenir sur, à propos de Milosevic, en venir à présent de Jean Madiran, dans lequel ce matin... C'est-à-dire le journal d'hier, vous avez probablement déjà passé ça par pestre et profit dans votre tête, si vous êtes comme moi. Moi, je ne sais jamais ce qu'il y a dans le numéro précédent du journal. Mais il y a un très bon papier de Villemarais sur le procès Milosevic, oui. Et sur les non-dits.
Alors,
j'invite à le lire. Voilà.
Ah ben oui, mais je l'ai déjà lu. D'autant
j'imagine quand même que vous jetez un coup d'œil sur votre propre
journal. Non, mais pas forcément. Le drame des journaux, le drame interne des journaux, c'est qu'on ne lit pas les articles voisins parce que, tiens, c'est un tel qui a fait un article au tel sujet, je sais d'avance ce qu'il a dit. Et alors, souvent, on se dispense de le lire, ce qui peut...
Mais voilà, c'est un grand journal présent. Alors, ils ont des gens qui peuvent...
455 journalistes.
Qui peuvent se partager les pages. Ils ont tellement de pages qu'ils n'ont pas le temps.
C'est toute la différence. Ce qu'il a dit sur Milosevic, c'est très intéressant parce qu'il le dit avec beaucoup de faits, presque deux tiers de pages.
Oui.
Et la veille ou l'avant-veille, moi je l'avais dit en trois phrases.
Pardon.
Mais je sais que ça frappe beaucoup moins.
Non, mais c'est parce que... Non, mais attendez. Le fait... Non, mais, oui. Bien sûr, vous avez raison. Les faits qui... La réalité qui est exposée...
Oui, oui, oui. Non, mais
on la connaissait, vous comme moi. Mais ce qui est intéressant, c'est que Villemarais apporte une avalanche de détails.
Je suis bien d'accord.
De noms, de dates...
Un bon papier pour garder.
Cette chose-là me fait toujours penser à... Mon excellent camarade Pierre-Anthony, qui racontait qu'il prétendait partout qu'il était un grand spécialiste du rugby. Et il disait, moi je suis capable de dire, me demandez n'importe quel renseignement sur n'importe quel rugbyman depuis la guerre, et je vous le donne. Alors on lui disait, quel était le nom du deuxième ligne de Bègle en 1954. Alors il disait...
Ma mère,
par exemple. Bon. Et alors on disait, combien il mesurait ? 1m87. Combien il pesait ? 92 kilos. Et... C'était stupéfiant. Et un jour, je lui dis, mais enfin, comment tu fais? Il me dit, j'invente. Comme personne n'en sait rien, qu'est-ce que ça peut foutre? Voilà. Je sais pas pourquoi je raconte ça. De...
C'était dit à Villemarès?
Non, pas du tout. Mais ça me passe... Moi, vous êtes curieux, parce que vous avez tout l'impression que j'ai des arrière-pensées. Non, j'ai une histoire qui me passe par la tête. Je la raconte. Ça n'a rien à voir avec...
Je ne soupçonne aucune arrière-pensée.
Ah bon, j'espère.
Je m'attache simplement à vos propos.
Cher Président, je vois que... Nadiran, vous raccourcissez, effectivement, les gars. Parce que je vois que quand même, en ce qui concerne la convention du Front National à Lyon, qui a été quand même une réussite, là vous avez très raccourci, parce qu'il représente à peu près une dizaine de lignes dans présent.
Aïe, 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 aïe. La mauvaise limonade, là.
Mais c'est parce que c'est dans le numéro suivant.
Ah, voilà. Ah.
Eh bien, je vais attendre avec impatience le numéro suivant.
Acceptons-en l'augure, on dit. Qu'est-ce qu'il y a dans
non,
le...
Non, je regarde la date.
Qu'est-ce qu'il y a dans le dernier numéro de National Hebdo?
Oh, bien, écoutez, le dernier numéro de National Hebdo, justement, c'est quand même le compte-rendu de cette convention, où, si vous voulez, parlant sur le plan journalistique et parlant sur le plan militantisme, Le Pen a retrouvé un électorat de jeunes, a retrouvé un électorat qui, si vous voulez, de l'ambiance qu'il y avait eu il y a quelques années. Et je pense que le phénomène Le Pen que la presse avait un petit peu trop vite enterré. Ces derniers temps, Le Pen, il n'existait plus, ou ceci, là. Et on s'aperçoit que Le Pen est là, que son électorat est là, que la position de troisième homme se maintient, donc pour le moment National...
Mais ce n'est pas la position de troisième homme qui est en cause, à mon avis, c'est la position de premier et deuxième homme qui fait
oui,
débat en ce moment.
Le débat, oui, vous avez raison, il vaudrait mieux qu'il soit deuxième que troisième, je suis d'accord avec vous. Je pense que le Front National fait tout pour que Jean-Marie Le Pen soit troisième. Car, si vous voulez, l'événement...
Ou soit deuxième.
S'il est deuxième, il peut être premier.
Eh bien, justement.
Voilà. Moi, je pense
c'est lui au premier tour aussi.
Le phénomène chevènement se dégonfle. Je crois que vous le constatez. Je crois qu'on le peut constater. Et que je crois que cette campagne électorale va être très dure. Je le disais tout à l'heure. Jospin, Chirac sont obligés de se massacrer l'un l'autre. Et ils sont obligés de massacrer chevènement également. Alors, dans tout ça, eh bien, nous allons être les spectateurs, peut-être la tortue qui arrive. Voilà.
Et les lettres Fersan, la petite poule Fersan qui arrive à son, combien vous m'avez dit 60e bébé 60e poussin Non, je parle pas de Madame de Fersan.
On n'est pas encore là.
Je parle des lettres Fersan de votre journal. Je sais que vous êtes particulièrement attaché à redresser la balance démographique du pays.
Mais pour l'instant, c'est en bonne voie.
Bon. Mais... C'est bien. Alors, non, mais les lettres Fersan, vous avez
ben,
quoi
tourne,
que des choses qu'on peut dire à l'antenne. Hein, parce que
des choses qu'on peut dire à l'antenne.
C'est vrai que votre truc, c'est vraiment... même moi, parfois, je suis choqué.
C'est vrai que je tape fort. Bah, les choses qu'on peut dire à l'antenne, oui, bah, la une des lettres Fersan ce mois-ci est consacrée aux récents et multiples déboires judiciaires de M. Bedos.
Ah, très bien. Wow. Intéressant. Ça nous sort de la politique, ça nous change un peu. Madame, messieurs, avez-vous quelque chose à dire? Oui.
En dehors de mes petits auditeurs.
Voilà. Ah, maintenant, on va donner la parole aux éditeurs. Alors voilà.
Oh, c'est parti. Pont sur le clan de la presse. On dit Reagan et non Reagan. Pas besoin d'être agrégé d'anglais. Mais grâce au ciel, on va faire de l'anglais dès la maternelle. À Madame Galli, Monteverdi.
C'est pas la même chose, Reagan, c'est l'endroit où explosent les bombes atomiques françaises.
N'a pas composé de symphonie, ce n'était pas l'époque.
Non, mais je me suis reprise d'ailleurs.
C'est très
j'ai dit les œuvres, parce que j'ai eu
une sonate
qui s'est allumée.
Oui. Il faudrait rappeler le Machiavel pédagogique de.
Pédagogue.
Oh là là. Par Pascal Bernardin. Mmh. Ce livre fait le tour des professeurs, qui sont aussi des parents, et à qui il ouvre les yeux.
Mmh. Très bon bouquin.
Jospin est candidat, c'est officiel. Commentez-nous cette information, ainsi que la prestation de Chirac la semaine dernière sur TF1.
Attends, sérieusement, ça n'est, comme on disait,
à propos de la Pravda et de l'Izvestia, on disait la Pravda, c'est il n'y a pas de nouvelles, et dans les Izvestia, il n'y a pas de vérité. Et alors là, dans le cas de Jospin, il faut dire aussi que Pravda, ça veut dire vrai, et Izvestia, c'est les nouvelles. Hein, donc, on peut dire que la candidature de Jospin n'est ni une information, ni une nouvelle.
D'autant qu'en plus, il n'est pas candidat. Il est candidat à la candidature du Parti Socialiste.
Oui.
Et il sera candidat à la présidence lorsque le Parti Socialiste l'aura désigné. Ce qui est évident. Mais ce qu'il a dit aujourd'hui, c'est pour le moment, c'est simplement...
Franchement, comment voulez-vous que les gens prennent la politique au sérieux? Comment voulez-vous que les Français croient un seul instant à ce que racontent ces guignols à ficelle quand le type arrive très sérieusement en disant « Moi, Lionel Jospin, je présente ma candidature devant le bureau politique du Parti Socialiste être désigné comme candidat socialiste aux élections. » Enfin, vraiment, c'est même pas de la mascarade, c'est...
Voilà, la parole... Mais vous savez, les bureaux politiques des partis, hein, ce sont souvent de la simple figuration.
On a un membre d'un BP, là, à côté de vous.
Je ne m'en étais pas avisé.
Mais il n'est pas là en tant que membre d'un bureau politique.
Au titre de National Hebdo.
Que pensez-vous du soutien apporté à Chevènement par tous les gens de droite qu'on a pu entendre sur Radio Courtoisie, le général Gallois, du Tour Saint-Robert, etc.? Que si vous me donnez un communiqué?
Mais je sais pas bien qu'on a reçu un communiqué, monsieur.
Alors, c'est le libre comité de soutien au général Pierre-Marie Gallois.
Ben voilà la réponse à votre question.
Alors, son but, c'est d'appeler au soutien du général Pierre-Marie Gallois, dont le nom apparaît dans la liste des personnalités qui cautionnent la candidature à la présidence de la République de monsieur Chevènement.
C'est compliqué, ça.
Notre devoir est de dénoncer une manœuvre qui, sans nul doute, est assimilable à un abus de faiblesse sur personne vulnérable. Délit passible. Qu'est-ce que vous me faites lire là? Délit passible des tribunaux correctionnels.
L'abus de faiblesse.
Ah, bah, attendez. Oh, puis le comité à son siège à Don Rémy la Pucelle dans les Vosges, rue de la Carte de Vœux de l'an 2000.
Ah, c'est une farce.
J'ai tout compris.
Pardon de vous avoir dérangé.
Voilà, on se fait piéger.
C'est trop bête.
Oh. Parlez-nous donc du fantaisiste Dieudonné.
Ah, il paraît qu'il a ses 500 signatures. Moi, j'espère
qu'il va... Non, mais ce que je trouve scandaleux dans l'affaire de Dieudonné, c'est que la publicité politique est soumise à des impératifs. Or, Dieudonné terminera son spectacle le 16 avril ou le 17 avril, ce qui fait que ses affiches sont partout.
Mais les autres, ils terminent leur spectacle quel jour?
Jamais, non, c'est ça le drame.
Attendez, moi, je suis très très content que Dieudonné soit candidat, s'il est vraiment candidat, parce que comme c'est un psychopathe évident, enfin, il n'y a qu'à l'écouter, c'est évident que ce type est atteint assez gravement. Il dit des vérités, c'est certain. Mais il y a un moment où il va péter les boulons, c'est sûr.
Avec Dieudonné et les Juifs, parce qu'en ce moment, ça...
Voilà. Oui, je crois que Elie Semoun a son mot à dire sur le sujet.
En ce moment, ça éclate. Avant même que Dieudonné n'ait fait allégeance à Ben Laden.
Je crois que c'est pas à ça que je pensais. C'est surtout comme c'est un raciste noir invétéré qui prononce des phrases épouvantables qui l'ont valu déjà d'être condamné. Puis ça, je pense qu'à un moment il va péter un boulon, il va dire des choses extrêmement graves. Et il va être lourdement condamné, en bonne logique, parce que la griffe va être là, la griffe 70 boulevard Saint-Germain, la cotisation est de 50 francs, et l'Alliance générale contre le racisme pour la défense de l'identité française et chrétienne, et catholique, non chrétienne, et donc qui s'occupe de porter plainte contre les auteurs d'actes racistes.
Qui a déjà fait condamner, monsieur Dieudonné.
À mon avis, voilà. Maintenant il est grillé, donc je pense que c'est sa dernière tournée, là. Et je pense qu'il n'y aura pas que la griffe qui va porter plainte contre lui très prochainement.
Dieudonné fait ses adieux.
Parce que, il est cramé.
Ouais.
Il a fait des déclarations dans quelques journaux, à Lyon Capitale, au Monde, etc. Tribune juive, cette semaine, a parlé de lui. Actualité juive a parlé de lui. Il est désormais persona non grata dans l'ensemble du milieu du showbiz, à mon avis, il va se retrouver au chômage.
Voilà, d'autant plus qu'il commence de plus en plus à interviewer son ancien partenaire Elie Semoun, et ils se sont séparés en de très mauvais termes.
Ouais. C'est bien triste tout ça.
Mais
voilà.
Quelle est l'importance de Dieudonné dans les élections, par exemple?
Bah ça, c'est ce qu'on vient de dire. Moi, j'aurais voté pour lui.
Ah bon, bravo.
Ah oui,
au moins, il aurait eu une voix. Il aurait eu une voix.
Serge, il vous reste Christiane Taubira, quand même.
Ah, je ne sais pas qui c'est, ça.
Non, candidate des radicaux de gauche.
Et Guyanier.
La Guyanaise de...
Radicale.
Radicale de gauche, elle a 600 signatures.
Ah bah, c'est très bien, je suis très content. Donc, je sais maintenant pour qui... Voilà, comment elle s'appelle, vous le dites?
Christiane Taubira.
Taubira.
Bon. Ancienne tapiste.
Si on additionne les voix de tous ceux qui disent avoir eu les 600 signatures, on va bientôt arriver à 80 000 maires.
Bon. Oui. Il y en a. Pour le numéro 0 de métro, nous dit cet auditeur, j'ai été frappé au métro Danube.
Lui aussi, il a été frappé.
Arrêtez. Au métro Danube, car j'ai voulu en récupérer un. Ils étaient en Mercedes et ils m'ont dit qu'ils étaient payés pour cela.
Le numéro
j'ai payé pour taper.
Bon, une auditrice. Pouvez-vous évoquer l'affaire du film Amen, contre lequel seule la griffe s'est manifestée?
Eh bien, je peux l'évoquer.
Que pensez-vous de l'attitude des évêques?
Il y a un papier d'Henri Vareux.
Oui, il y a un papier d'Henri
Vareux. Il y a le compte-rendu de l'audience, le compte-rendu détaillé de l'audience, dans présent de demain matin.
Il y a eu un papier dans Mondévier.
Avec cette parole extraordinaire du procureur, entre autres choses. Mais je ne vois pas, il faut vraiment chercher pour voir une croix chrétienne dans cette affiche.
Il sait peut-être pas ce que c'est aussi.
Et c'est ce qui est bien ainsi que ça a été commenté, voilà. C'est que sans doute il ne sait pas ce que c'est qu'une croix, qui c'est lui qui a
c'est comme comme la Béard.
Mais le référé doit être
Emmanuel
Béard.
Emmanuel Béard
qui. Le compte rendu du référé c'est demain.
Demain. Emmanuel Béard qui quand elle était allée occuper la clinique, l'église Saint-Bernard. On peut pas éteindre la petite lumière rouge, ça m'empêche de dormir.
On éteigne la lumière du tabernacle.
Voilà. Ah tiens, à propos d'Emmanuel Béard, je lance un appel, un avertissement solennel à tous les auditeurs de Radio Courtoisie, enfin ceux qui restent. Ceux qui m'écoutent encore, laissez-vous, même si on vous traîne par les cheveux, même si on vous tord le bras dans le dos, même si on vous casse les jambes, n'acceptez en aucun cas d'aller voir 8 femmes. Moi, je vais au cinéma à peu près une fois tous les 10 ans, et là, j'ai été pris par surprise, je suis allé voir les femmes. C'est 2 heures d'ennui terrifiant. Là, c'est le film avec Catherine Deneuve, Fanny Ardant, Emmanuel Béard,
Daniel
Darieux.
C'est mis en retraite, là.
Comment ça s'appelait le la maison des vieux artistes là.
Ah oui, bah, c'est la Richard-Angis.
C'est effrayant. Et alors, c'est le film le plus nul que j'ai vu de ma vie, pratiquement.
Non, mais c'est parce que vous n'allez jamais au cinéma.
Oui, mais même. Et alors, je veux dire, simplement, écartez les enfants du récepteur, parce que je vais vous dire quelque chose. Il y a une scène de lesbianisme entre Catherine Deneuve et Fanny Ardant. C'est hallucinant. C'est hallucinant.
C'est ce que tu as retenu du film.
On a l'impression que c'est la charcutière du coin qui est en train de se faire séduire par le vainqueur du Grand Prix de l'Arc de Triomphe. C'est hallucinant. Vraiment. Et si vous pouvez avoir ne serait-ce qu'une image, parce que c'est très pudique, elles sont habillées. Enfin, je dois dire que de penser que le cinéma français, le cinéma fabriqué en France en est arrivé à ce degré, ça dépasse l'imagination.
Non, c'est pas son degré record de très loin.
Alors allez le voir.
Mais je l'ai vu.
Ah bon?
Oui.
Et vous en êtes remis?
Oui, parce que il est plutôt assez discret par rapport à la production moyenne du cinéma français.
Oh, oui. Alors moi, j'en suis encore tout ébarouflé.
Et Daniel Darieux que je vois au cinéma depuis mon plus jeune âge, termine très bien le film. Très joliment, avec...
Ah bon, je me souviens pas du tout.
Vous n'êtes pas resté à la fin?
Non, je ne sais pas. J'ai trouvé ça terrifiant.
On l'a réveillé à la projection suivante.
J'ai encore 3 petits messages. Au sujet du film 8 femmes, il y a au moins une bonne chose. La musique. Pour la petite histoire, nous dit cette auditrice, si on regarde l'ours du Figaro, il est à noter qu'il n'y a pas une seule femme, et vive la parité. Et pouvez-vous nous parler de la condamnation de Brigitte Bardot, dont on a pu lire dernièrement... La publication légale dans Présent.
Ah oui, mais
Présent,
ça, c'est vrai.
Alors, vous avez condamné...
Présent a publié la condamnation de
Il
Brigitte
ne lit pas
Bardot.
Son journal, monsieur Madiran. Si.
Mais je sais très bien. Les publications légales, c'est quand même tout à fait intéressant, parce que on est obligé. On est payé.
En l'occurrence, c'est Brigitte Bardot qui paye, et elle a la gentillesse de préférer donner son argent à Présent qu'au Monde.
Ça dépend, parce que quelquefois le tribunal peut fixer,
peut exiger
que ça soit tel ou tel, et puis l'un n'exclut pas l'autre.
Et il faut, et le malheureux doit payer. Enfin,
oui.
Puisqu'on parle de Brigitte Bardot, je voudrais rappeler que les festivités de l'Aïd el-Kébir commencent le 22, donc
après-demain.
Et
Donc, si vous avez des moutons, cachez-les.
Avec le massacre, avec l'ignoble massacre de moutons qui se produit chaque année dans toute l'Europe, puisque ce n'est pas seulement chez nous. Les Belges ont manifesté, Flamands et Wallons nationalistes ont manifesté ensemble contre ça. Il y a eu 2000 personnes à Bruxelles. J'aimerais bien que de temps en temps il y ait par exemple des manifestations contre cet holocauste au vin.
Moi je veux dire, il y a un bon truc, vous allez dans la rue, vous attrapez le premier musulman visible qui passe et vous lui dites, venez à la maison, j'ai des moutons et je vous donne tous ceux que vous pouvez attraper. Vous lui donnez un balai, il racle sous les lits et vous fait un peu de ménage gratuitement. Après, bon, vous essayez de lui expliquer.
Oui, et comment on se débarrasse du ramasseur de moutons.
C'est la suite au prochain numéro. Merci à tous, à dans un mois.